Touti, touti, touti. Internet avant, je me disais, c'est pas pour moi, trop compliqué, pas intéressant. Puis on m'a conseillé de m'y mettre. Au début, pas facile de s'y retrouver dans ce réseau. Et puis j'ai fini par trouver des choses vraiment, vraiment intéressantes. Les sites porno, les trucs bien crado, et parfois même des morts en direct. Et je peux commander des milliards de choses, plein de trucs inutiles, qui serviront jamais. En cherchant bien, on peut même acheter une femme. Et toutes ces pubs, oh, j'aurais jamais cru à une telle diversité. Non, franchement, Internet, aujourd'hui, j'y vais les yeux fermés, sans réfléchir et sans cerveau. Ça me permet de passer des heures, comme ça, à rester les yeux globuleux devant l'écran. Touti, touti. C'était un message du ministère des technologies nouvelles, génial, tout ça, tout ça.
Bonsoir, Daniel. Ne laissez pas aux religions qui passent le droit de gouverner l'humanité qui dure. Je viens d'entendre cette phrase dite par un jeune chômeur, et je trouve que c'est une des plus belles phrases qui puisse exister. Et je la remercie beaucoup parce qu'il est vraiment magnifique. Bon courage à lui en tout cas. Salut, merci.
Loto, à qui le tour? Les enfants, j'ai joué l'argent du RMI au loto. Et devinez quoi? J'ai tout perdu! Alors, pour fêter ça, on va tous aller au resto du cœur. Loto, à qui le tour?
Dis, papa, pourquoi il y a des SDF? Elle avait 10 ans, la petite fille qui me tenait la main, pendant que je faisais encore une fois semblant de croire au Père Noël. On a quelquefois des illuminations dans cet éclairage qui se veut riche des rues de nos cités, quand il faut consommer. Ma fille savait encore regarder à son niveau. Depuis, je n'ai plus de hier.
Oui, bonsoir. J'aimerais donner un message à tous les chômeurs qui se sentent coupables d'être au chômage en leur lisant un petit texte de Georges Étiévant, qui est un typographe qui a écrit ça il y a 100 ans, et qui dit « Par le fait même de sa naissance, chaque être a le droit de vivre et d'être heureux, ce droit d'aller, de venir librement dans l'espace, le sol sous les pieds, le ciel sur la tête, le soleil dans les yeux, l'air dans la poitrine, ce droit primordial, antérieur à tous les autres droits, imprescriptible et naturel, on le conteste à des milliers d'êtres humains. La nature nous dit « prends et non pas achète ». Dans tout achat, il y a un dupeur et un dupé, l'un qui tire profit de sa transaction, tandis que l'autre est lésé. Mais si chacun prend ce dont il a besoin, personne n'est lésé, attendu que chacun, ayant ainsi ce dont il a besoin, il a aussi tout ce qu'il a droit. C'était Franck de Valence. Au revoir.
Je me suis mis un instant à la place du gouvernement. Si j'avais à faire passer 100% des réformes que m'a demandé de faire passer le MEDEF, je ferais en sorte de ne pas tout réussir pour donner l'illusion qu'il y a une force sociale organisée qui s'oppose à moi et qui parfois me fait reculer. Pour cela, je proposerai à l'Assemblée nationale des amendements comme l'interruption involontaire de grossesse, des projets mal ficelés pour réformer l'université, enfin des choses qui susciteront une opposition et comme ça je battrai en retraite piteusement. Et tous les éditorialistes, tous les journalistes relèveront que le gouvernement recule, que l'opposition remporte des succès, qu'il y a une sorte de match nul. En fait, c'est pas vrai. Moi, gouvernement libéral à la solde des actionnaires du MEDEF, j'ai rempli 100% de mon contrat. J'ai fait passer les retraites, le RMA, la fin du SMIG, les intermittents du spectacle. 100% de réussite. Je me mets encore à la place du gouvernement. Si j'avais à faire passer la constitution européenne ultralibérale qui empêchera tout changement de politique, quel que soit le résultat des futures élections, je m'y prendrai ainsi. J'organiserai 2 référendums, locaux et bidons. Je les perdrai exprès, avec des involtures, pour prouver que les votants ne répondent pas à la question posée. Je choisirai la Corse et les Antilles. Et les mêmes éditorialistes, les mêmes journalistes sérieux, répandraient dans l'opinion l'idée que le référendum, décidément, ce n'est pas sérieux, et qu'on ne peut pas recourir au référendum pour faire passer la Constitution européenne. Donc il faut aller devant le Congrès à Versailles. Et là, à Versailles, j'ai 100% de chance que ça passe. Bonsoir.
Malin ce message, hein, et comme les autres d'ailleurs, mais celui-là quand même un peu paranoïaque, mais malin. Aujourd'hui, une rencontre absolument formidable, mais vraiment un homme formidable, qui s'appelle Howard Zinn. Howard Zinn est un, c'est écrit Z-I-N-N, Howard Zinn, c'est un historien américain. Il a 80 ans et il est une grande figure de la vie intellectuelle aux États-Unis. Et son livre, enfin il en a écrit une série, mais son livre le plus célèbre a été traduit en français. Il s'intitule « Une histoire populaire des États-Unis ». Et cet historien nous raconte une autre Amérique. Une Amérique qu'on ne nous raconte pas d'habitude. Et c'est absolument, c'est un livre prodigieux. Vous vous souvenez peut-être de notre rencontre avec Eric Hobsbawm il y a quelques années. Eh ben, c'est un bonhomme aussi considérable et un travail aussi considérable. Un livre vraiment une grande rencontre et un grand bouquin. Donc on va passer cette heure avec lui. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis, 01 56 40 37 37.
Je rebondis un petit peu sur les appels que j'ai entendus aujourd'hui. J'ai pas entendu les émissions sur les chômeurs, mais je sais que ça me guette puisque je termine mon contrat très bientôt et que ça fait plusieurs années que je rame. Moi, il y a un truc qui me rend fou. Est-ce que personne se rend compte qu'en vérité, la démocratie n'existe plus et que c'est le retour de la féodalité? Comprenez? Comment les gens peuvent-ils accepter qu'on enlève la SS, qui est un des seuls moyens de survie de certaines personnes qui sont au bout du rouleau, et qu'en même temps, notre premier ministre refuse de signer un accord à l'amiable avec la justice américaine pour protéger son copain Père Levade et Adrer et compagnie, qui ont coulé en fait une banque et ont escroqué des centaines de millions de francs, enfin d'euros, enfin on s'en fout en fait à la limite. C'est le retour de la féodalité. Comment les journalistes peuvent-ils souvenir en nous disant que tout va bien, que c'est la démocratie? Comment peut-on encore parler de démocratie dans les médias alors qu'en fait, il y a des dénis de justice flagrants? Voilà. Et j'espère que les gens vont se réveiller, y compris l'espace moyenne qui veut même pas sentir ce qu'il y a la collée en dessous des semelles. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que... Et merci de cette émission. Voilà, c'était Jeff Divry.
Voilà, donc je viens de m'engueuler avec ma nana et mon fils qui rentre en pleurant à la maison, parce que dans sa classe, ils ont tous vu Le Monde de Nemo, et puis moi, je suis graphiste, et que donc je suis indépendant, et que j'ai pas les acidiques, ni quoi que ce soit, etc., c'est un peu la galère en ce moment, donc on peut pas lui payer Le Monde de Nemo, donc voilà, donc je sais pas s'il pourra le voir, je pense pas, et c'est con, parce qu'il a vraiment les boules, et puis nous, ça nous met dans la merde, et puis on s'engueule, et puis voilà, pour des conneries, pour des histoires de thunes, parce que voilà, je pense pas que Jean-Pierre ou Ernest Antoine aient ce genre de problème. Donc voilà, tout ce que je peux leur dire, c'est que je les emmerde, mais putain, mais comment je les emmerde. Voilà, bon allez, salut, à bientôt, ciao les imbéciles.
Une scène de ménage presque en direct hein, sur le répondeur. Une colère en tout cas, un coup de gueule, une rage. Alors aujourd'hui, donc on va rencontrer Howard Dean dans un instant, mais aujourd'hui c'est un grand jour quand même pour nous, et puis pour Marcel Mathieu. Marcel, c'est l'aîné de la basse J'y suis. Il a 93 ans jusqu'à ce soir. Demain, Marcel aura 94 ans. Vous vous souvenez, Marcel, qui nous laisse des messages formidables sur le répondeur, et on avait fait une heure avec lui, enfin c'est Claire Rotter, son ami, qui avait fait une heure avec Marcel, un reportage, où Marcel nous a fait découvrir ses carnets. Depuis des années, cet auditeur tient un journal, écrit chaque jour dans ce carnet, et aujourd'hui pour son anniversaire, eh bien il a rouvert pour nous, pour vous, son carnet au jour de ses 20 ans. Donc c'était il y a 73 ans aujourd'hui, et demain ça fera 74 ans.
Aujourd'hui j'ai 93 ans. Nous sommes le 10 décembre 1930. 20 ans. Annie, je viens d'avoir 20 ans. Ça a été un beau jour que celui de mes 20 ans. Un beau jour d'hiver, teinté d'un bleu pur, frais et gai, et ensoleillé de poussière d'or. 20 ans. La prime jeunesse est finie, et je deviens un homme. Oui, je suis un homme, je serai bon. J'irai vers les malheureux, les mains tendues, et je les aimerai bien. Je les aimerai de mon mieux, gaiement et tendrement. Toute l'année, être bon, être gai, être généreux, généreux sans mesure, sans calcul. Bonté, bonté, tu habites mon cœur.
Marcel, vous étiez plein d'enthousiasme, là.
Oui, oui, oui. Que jamais mon cœur ne soit fermé à la pitié. Une nouvelle de Dickens, de petites lettres écrites à mon père pendant la guerre, viennent de me faire découvrir ce secret de la vie heureuse et du bonheur. Vous voyez, quelle naïveté j'avais. Hein. J'étais resté enfant, hein, à 20 ans. J'étais très naïf, ouais, très candide. Je le suis resté peut-être un peu toute ma vie. Ce que je me reproche surtout, c'est de ne pas savoir parler alors que j'aurais dû. Ce que je crois être vrai, parce qu'il faut toujours se méfier, hein, c'est que j'ai vraiment voulu être agréable pour les gens et les aider à vivre. Aujourd'hui, j'ai 93 ans. À partir de demain, je vais dire que j'ai 94 ans.
À bientôt.
Eh bien, merci.
Bon anniversaire, Marcel Mathieu, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet, c'est Howard Zinn autour de son bouquin Une histoire populaire des États-Unis.
Flight number 2, arriving from New York.
It's like when the first airplane flew for 60 seconds.
C'est comme quand le premier avion pris son envol même pour 60 secondes.
You knew then it was possible to have an airplane that would fly for 10 hours.
Dès lors, on savait qu'un avion pourrait voler pendant 10 heures.
Hello, this is Roberta Peters. If you want to hit a high note for safety, please buckle up your seatbelt.
Et c'est quoi? C'est quoi cet avion dont parle Howard Zinn? Cet avion qui a volé et qui revolera probablement un jour? Eh bien, c'est un autre monde, l'autre monde possible. Et qu'est-ce qui lui fait dire ça? Eh bien, c'est qu'il est historien. Et c'est au sujet de la Commune de Paris. Nous parlions de la Commune de Paris. Et nous parlions de Barcelone, en Espagne, durant la guerre d'Espagne. Nous parlions, nous cherchions des exemples de moments où, dans notre histoire, il y a eu des références, quelque chose qui pourrait nous servir de modèle pour l'un de ces mondes possibles dont certains rêvent, dont certains, beaucoup, ne cessent de penser. L'image qu'a trouvée Howard Zinn, c'est celle-là. Bien sûr, l'avion n'a pas volé longtemps, mais dès lors qu'un avion peut voler, eh bien, tous les espoirs sont permis. Une belle métaphore. On va passer une heure avec cet homme absolument extraordinaire. Peu d'hommes que vous rencontrez qui, à travers lesquels passe un souffle aussi puissant, hein, vraiment le souffle de l'histoire. L'histoire populaire des États-Unis, c'est l'histoire des États-Unis comme on l'ignore, voilà, exactement comme on l'ignore. C'est-à-dire vu par le bas, vu par les gens, vu par le peuple, vu par les femmes, vu par les noirs, vu par les petites gens, comme on dit, vu par les ouvriers, vu par ceux qui ne racontent jamais l'histoire, puisque, aussi bien on le sait, l'histoire est racontée toujours par les puissants. Par exemple, j'ouvre presque par hasard le livre de Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis, et je tombe sur, le débarquement, lorsque les Américains arrivent en France, eh bien, il nous dit que dans les forces armées américaines, les Blancs et les Noirs restaient séparés au moment de cette intervention. Lorsqu'au début de 1945, les troupes ont été embarquées sur le Queen Mary pour aller combattre sur le sol européen, eh bien, les soldats noirs prirent place dans les profondeurs du navire à côté de la salle des machines, aussi loin que possible de l'air frais du pont, dans une sorte d'étrange remake des transports d'esclaves d'autrefois. Voilà, tout Howard Zinn est dans cette image. Le Queen Mary arrive vers l'Europe pour sauver l'Europe, mais à l'intérieur du navire, les Noirs sont dans le fond, c'est encore la ségrégation, et ils voient là, évidemment, un rapprochement avec le commerce du bois d'ébène. Il va plus loin encore, il nous raconte comment la Croix-Rouge, avec l'accord du gouvernement américain, ne mélangeait pas le sang des Noirs avec le sang des Blancs. Ironie de l'histoire, continue Howard Zinn, c'est un certain Charles Drew, un médecin noir, à qui l'on devait le développement du système du prélèvement sanguin. Il avait été chargé pendant la guerre de l'organisation des dons du sang et il fut remercié après avoir essayé de faire cesser la ségrégation dans ce domaine. Une résistance, la résistance d'un médecin. Tout ce livre raconte les résistances de 1492 à nos jours. Et alors il commence avec l'arrivée de Christophe Colomb, de l'actuel Bahamas, et il va jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que Howard Zinn est presque un journaliste. Il continue de raconter l'histoire de la guerre en Irak, de ce qui se passe dans ces jours-ci. Et il est à la fois un historien de l'immédiat et un historien du temps long. Et c'est entre ces deux temps-là qu'on va se retrouver, entre ces deux tensions du temps long et de l'immédiat, entre ce que nous faisons, nous pouvons, nous, peuple, faire sur l'histoire et ce que l'histoire fait pour nous. C'est jusqu'à 18h, c'est sur France Inter, Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis.
I'm not a hunter, but I'm told that in places like in the Arctic, where indigenous people sometimes might hunt a wolf, they'll take a Gabonese blade and they'll put blood on the blade and they'll melt the ice and stick the handle in the ice so that only the blade is protruded, and that a wolf will smell the blood and wants to eat. And it'll come and lick the blade, trying to eat. And what happens is when the wolf licks the blade, of course, he cuts his tongue and he bleeds. And he thinks he's really having a good meal. He drinks and he licks. And of course, he's drinking his own blood and he kills himself. That's what the imperialists did to us with crack cocaine. You got these young brothers out there thinking that they're getting something that they're going to make a living with. They're getting something they can buy a car like the white people have cars. Why can't I have a car? They get something so they can get a piece of gold. The white people have gold. Why can't I have gold? They get something to get a house. The white people have a house. Why can't I have a house? And they actually think that it's something that's bringing resources to them, but they're killing themselves just like the wolf who's licking the blade, and they're slowly dying without knowing. That's what's happening to the community. You with me on that? That's exactly and precisely what happens to the community. And instead of blaming the hunter who put the damn handle and the blade in the ice for the wolf, that what happens is the wolf gets blamed for trying to live. That's what happens in our community. You don't blame the person, the victim, you blame the oppressor. Imperialism, white power is the enemy. Was the enemy when it first came to Africa, snatched up the first African, brought us here against our will, is the enemy today. That's the thing that we have to understand.
Howard Zinn, je voudrais qu'on commence tout de suite par le titre. Une histoire populaire des États-Unis. Et pour nous, populaire, c'est un mot déjà un peu douteux, qui rappelle un peu les démocraties populaires. Maintenant, populaire, c'est comme populiste. Est-ce que c'est les mêmes réserves qu'on fait aux États-Unis sur l'usage de ce mot?
In the United States,
aux États-Unis,
the book is called A People's History of the United States. Une histoire du peuple.
C'est plus une histoire du peuple qu'une histoire populaire.
Les éditeurs français, la donné le titre, histoire populaire. For me, the word means history of the ordinary people in the United States.
Cela signifie une histoire des gens ordinaires aux États-Unis.
Une histoire des gens ordinaires. Votre but, c'était de faire une histoire par le peuple, pour le peuple.
That's the definition of democracy.
Oui, c'est ça la définition de la démocratie.
By Abraham Lincoln. A government of the people, by the people, for the people.
Un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Et c'est le but du livre.
The goal of the book is to show, in fact, that we do not have government of the people in the United States.
Le but de ce livre, c'est de démontrer que justement, il n'y a pas de gouvernement par le peuple. Yeah.
We do not have government for the people of the United States.
Nous n'avons pas un gouvernement pour le peuple aux États-Unis.
Pourtant, vous êtes une démocratie.
Maybe.
Mais
yes and no.
Oui et non.
Yes and no.
Pourquoi ce n'est pas une démocratie?
Oh, because, you know, and in my book, I explain this, that the founding fathers did not intend to have a democracy.
D'abord, et je l'explique dans le livre, les pères fondateurs n'avaient pas pour intention de mettre en place une démocratie.
The men who created the Constitution of the United States in 1787.
Les hommes qui créèrent la démocratie aux États-Unis en 1777.
Did not want a democracy.
Ne voulaient pas la démocratie.
They wanted a strong central government that would serve the interests of the elite.
Ils voulaient un gouvernement fort, centralisé, qui serve les intérêts de l'élite.
Because those 55 men who wrote the Constitution.
Car ces 55 hommes qui écrivaient la Constitution.
Yeah, they did not represent the people.
Ne représentaient pas le peuple.
They were slave owners.
Ils étaient propriétaires d'esclaves.
Merchants.
Des marchands.
You know, land speculators.
Des spéculateurs terriens.
Bond holders. And they were afraid of rebellion.
C'était aussi des actionnaires et ils avaient peur des rébellions.
Yeah. In fact, the year before the Constitution was made, there was a rebellion in Massachusetts.
En fait, l'année qui a précédé la Constitution, il y a eu une rébellion dans le Massachusetts.
In 1786.
1786.
Yeah. That rebellion in 1786 frightened the leaders of the American Revolution.
Et cette rébellion a vraiment effrayé, a fait très peur aux dirigeants de la Révolution.
And they wrote letters back and forth to one another.
Ils se sont écrits les uns les autres.
You know, one of those letters,
et l'une de ces lettres,
to George Washington,
adressée à George Washington,
said, you know, these rebels, they are veterans of the Revolutionary War against England.
Disait, mais vous savez, ces rebelles, ce sont des vétérans de la guerre révolutionnaire contre les Anglais.
And they think that because they fought in the Revolution, they deserve an equal share of the wealth of the country.
Et ils pensent que parce qu'ils ont participé à cette guerre révolutionnaire, une partie de la richesse de la nation leur est due.
We must not allow this.
Et on ne peut pas permettre ça.
Yeah. And so we will create a government which will be able to suppress rebellion.
Et c'est pourquoi nous allons créer un gouvernement qui aura les moyens de réprimer.
Avec seulement 50 hommes, nous pourrions les soumettre tous et leur faire faire tout ce que nous voulons. Au départ de cette histoire, celle qui a conduit à cette musique joyeuse et on ne peut plus américaine, eh bien, il y a cette phrase qu'écrivait Christophe Colomb lorsqu'il rencontra pour la première fois les Indiens Arawak en 1492. Et à l'autre bout du livre de Howard Zinn, il dit une chose toute simple. Il dit 1% de la population américaine détient un tiers de la richesse nationale. C'est quand même pas mal. 1%, je le répète quand même, 1% de la population américaine détient un tiers de la richesse nationale. Le reste est réparti de telle manière que les 99% de la population restante soient montés les uns contre les autres. Malgré la réalité de cette lutte amère et désespérée de ces 99% divisés et qui luttent les uns contre les autres, eh bien, autour de rares ressources épargnées par les élites dominantes, je prends la liberté de réunir ces 99% d'Américains sous l'appellation de peuple. Voilà ce qu'il entend dans le titre de son ouvrage, une histoire populaire des États-Unis, c'est-à-dire une histoire du peuple américain. Alors ce peuple, eh bien, bon, ce sont les Indiens, ce sont les esclaves en fuite, ce sont les soldats déserteurs, c'est les ouvrières, les jeunes ouvrières du textile, c'est les syndicalistes, c'est les GI du Vietnam, et puis c'est les activistes des années 80-90 qu'on a vu l'an passé lors des manifestations à travers les États-Unis contre la guerre du Vietnam. Alors ce livre va de Christophe Colomb à George Bush, notre George W. Bush d'aujourd'hui, et c'est tout ça qui est raconté par le peuple, vu d'en bas, hein, l'Amérique d'en bas, le contraire de cette Amérique qui à laquelle nous serions identifiés ou assimilés lorsqu'on nous avait dit « nous sommes tous des Américains ».
Dans votre livre, Howard, vous commencez en 1492 et vous dites « jusqu'à maintenant ». Et régulièrement, vous rajoutez des chapitres sur ce qui se passe. Ça finit presque par un journal. Vous travaillez presque comme un journaliste dans l'histoire immédiate. Là, vous évoquez les fondements de la démocratie américaine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer que les États-Unis d'Amérique sont une démocratie?
Today, the United States is sometimes a democracy and sometimes not a democracy.
Aujourd'hui, les États-Unis sont parfois une démocratie, parfois une non-démocratie.
But you know, in general. No, the government of the United States today is a government which is controlled by the powerful corporations in the United States.
Mais en général, le gouvernement américain aujourd'hui est contrôlé par les grandes multinationales.
And both political parties, the Republicans and the Democrats, they are both connected to the great corporations.
Et les deux partis politiques principaux, les républicains comme les démocrates, sont tous deux contrôlés par les grandes multinationales.
And so the political process in the United States is not a democratic political process because money controls it.
C'est pourquoi le processus politique aux États-Unis n'est pas un processus démocratique puisqu'il est contrôlé par des moyens financiers.
It is almost impossible for a third party candidate. If he's not a Democrat or a Republican, almost impossible for a third party candidate to get votes in the election.
Et c'est pourquoi pour un troisième parti, il est quasi impossible en fait de proposer un candidat qui puisse participer aux élections.
It's ironic because the United States says it wants free elections everywhere.
Quelle ironie pour un pays qui défend et qui
wants free elections in Iraq.
Qui appelle à des élections libres en Irak.
But we don't really have free elections in the United States.
Alors que aux États-Unis même, nous n'avons pas de véritables élections démocratiques.
Another thing about democracy. Democracy requires a free exchange of ideas.
Quelque chose d'autre à propos de cette idée de démocratie. Une démocratie exige un échange libre d'idées.
But it is very hard in the United States to have a free exchange of ideas. When the major newspapers and the major television stations are controlled by people of great wealth.
Mais comment avoir un échange libre d'idées quand la majorité des médias, des radios, des journaux est contrôlée par une minorité?
So the question of democracy is not a yes or no, it's a question of how much. And so if the major media are controlled by the wealthy corporations, but we who are outside of that circle have a little democracy.
Ce n'est pas une question de oui ou non, est-ce que nous sommes en démocratie, mais de à quel niveau, comment est-ce qu'on peut mesurer en fait notre implication dans cette démocratie. Pour nous qui sommes à l'extérieur du cercle de ceux qui contrôlent les moyens d'expression démocratique, nous n'avons pas les moyens en fait d'y participer.
Quand vous dites vous, c'est qui, de qui parlez-vous?
When I say we, I mean the opposition in the United States.
Quand je dis nous, je parle de l'opposition aux États-Unis.
Yeah. I mean the people who are against the war in the United States.
Je pense à ceux qui sont contre la guerre aux États-Unis.
I mean the people who want a more equal division of the wealth in the United States.
Je pense à ceux qui exigent une répartition plus équitable de des richesses aux États-Unis.
The people who want to reform the prison system, the judicial system in the United States.
Je pense à ceux qui veulent réformer le système judiciaire, les prisons aussi aux États-Unis.
Et pourtant, les États-Unis d'Amérique ont l'image du pays le plus libre, le monde libre, où on peut dire ce que l'on veut, c'est le pays du cause toujours.
Yes. Well, this is an image which is cultivated by the United States. The United States presents this image all over the world.
C'est une image qui est cultivée par les États-Unis du monde entier.
A manufactured image, you say.
C'est une image fabriquée au niveau.
Yes, we, the opposition.
Oui, nous, l'opposition.
We can have a meeting and speak to 1,000 people.
Nous pouvons organiser des meetings et s'adresser à un millier de personnes.
Or 3,000 people.
Voire 3,000 personnes.
Bush can speak to 20 million people.
Bush peut s'adresser à 20 millions de personnes.
Yeah. Pourtant, votre livre, votre histoire populaire des États-Unis ou votre histoire du peuple américain, un grand succès aux États-Unis. Vous êtes à 1 million d'exemplaires.
It's a very big success in the US. 1 million.
Depuis 1980, le livre se vend très bien. Enfin, c'est un succès de librairie et un succès populaire et un succès universitaire. Enfin.
Ah, oh, merci beaucoup. consider this.
Mais regardez.
A million people in the United States is not a majority of the population.
1 million de personnes aux États-Unis, ça n'est pas la majorité de la population.
And no major television station and no major radio station has said anything about my book.
Et aucune station de radio, des médias principaux ou bien de la télévision n'a dit un mot sur mon livre.
Yeah. Mm-hmm. But, you know, it's, I don't want to be totally pessimistic.
Mais je ne veux pas être pessimiste pour autant.
Because we must recognize that there exists in the United States an opposition of millions of people.
Car il faut reconnaître qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a une opposition qui regroupe des millions de personnes aux États-Unis aujourd'hui.
And too often people in other parts of the world, people in Europe and other parts of the world,
et bien trop souvent,
do not see this opposition.
Les gens en Europe ou dans d'autres parties du monde ne voient pas en fait cette opposition.
C'est vrai que les figures de l'opposition américaine aux États-Unis qui nous parviennent, c'est des stars. C'est Michael Moore.
Michael Moore.
Oh, yes.
C'est Chomsky. Mm. Noam Chomsky. Mm. Et peut-être vous bientôt. Mm. Vous n'êtes pas encore une star ici, désolé. Mais c'est pas le peuple. On voit pas des mouvements syndicaux ou des mouvements associatifs. Votre mouvement Not in Our Name est parvenu un tout petit peu dans l'opinion française à un moment où notre gouvernement émettait des réserves sur l'offensive en Irak. Dans cette condition et uniquement dans cette condition, Not in Our Name est rentré un petit peu dans l'opinion. Quelle est la réalité de cette opposition aux États-Unis?
The stars, naturally.
Ces stars dont vous parlez
are best known.
Sont évidemment très connus.
Because in, you know, modern culture, stars are important.
Parce que dans la culture moderne, les stars sont importantes.
But behind the stars in the United States, there are real people. There are millions of people.
Mais cachés derrière ces stars, il y a de vrais gens, des millions de gens.
Even before the war began in Iraq, there were demonstrations of hundreds of thousands of people all over the country.
Et bien avant que la guerre n'éclate en Irak, il y avait des manifestations aux États-Unis de centaines de milliers de personnes.
And if you consider that for every person who is so energetic as to go to a demonstration.
Alors considérez pour toute personne qui a suffisamment d'énergie pour aller à une manifestation.
You know, there are 50 people who feel the same way.
Pour chacune de ces personnes, il y a bien 50 personnes qui ressentent la même chose.
So that's why I say, you know, there are millions of people in the United States who are opposed to the war.
C'est pourquoi je dis qu'il y a des millions de gens aux États-Unis qui sont opposés à la guerre.
It's true we don't have a strong trade union movement in the United States.
C'est vrai que nous n'avons pas un mouvement syndical organisé et fort.
And then that's a weakness in the movement.
C'est vrai que c'est une faiblesse du mouvement aux États-Unis.
We don't have central organization for the movement in the United States.
Nous n'avons pas d'organisation centralisée aux États-Unis du mouvement.
But we have anti-war activity taking place all over the country in the smallest of towns.
Mais nous avons une activité anti-guerre dans les plus petites des villes américaines.
So here's a toast to all the folks that live in Palestine, Afghanistan, Iraq, El Salvador. Here's a toast to all the folks living on the Pine Ridge Reservation, under the stone cold gaze of Mount Rushmore. Here's a toast to all those nurses and doctors who daily provide women with a choice, who stand down a threat the size of Oklahoma City just to listen to a young woman's voice. Here's a toast to all those folks on death row right now, awaiting the executioner's guillotine, who are shackled there with dread and can only escape into their heads to find peace in a form of a dream. Peace in a form of a dream. Peace in the form of a dream. Cause take away our PlayStations and we are a third world nation, under the thumb of some blue blood royal son who stole the Oval Office and that phony election. I mean, it don't take a weatherman to look around and see the weather. Jeb said he'd deliver Florida, folks, and boy did he ever. And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy. And number three, the media is not fooling me. Cause I am a poem heating hyperdistillation, and I've got no room for a lie so verbose. Yeah. Yes, I'm looking out over my whole human family, and I'm raising my glass in a toast. Here's to our last drink of fossil fuels.
Une autre Amérique, un autre regard sur l'Amérique et une autre histoire de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, une histoire populaire des États-Unis par Howard Zinn, historien qui a 80 ans aujourd'hui, qui a enseigné l'histoire et les sciences politiques à la Boston University et dont il est aujourd'hui professeur émérite. Un bouquin absolument formidable qui sort aux éditions, qui sont il y a quelques mois déjà, aux éditions Agone, et que je vous conseille vraiment très chaudement. Dès le début du bouquin, Howard Zinn nous dit carrément les choses. Il dit, l'historien ne peut pas ne pas insister sur certains événements au détriment des autres. Il n'essaye absolument pas de se mettre dans la posture d'une quelconque objectivité, d'un surplomb scientifique. Non, il est sur le terrain, il est un homme engagé, il est un homme qui connaît la vie quotidienne des États-Unis. Il a été docker, il a été engagé dans l'armée américaine, il nous le racontera. Donc il sait de quoi il parle, il sait physiquement de quoi il parle, et il sait bien qu'on ne peut pas ne pas privilégier un événement d'une façon tout à fait et qu'il n'y a pas d'objectivité. Donc c'est un homme engagé qui regarde l'Amérique et qui la regarde de l'autre côté, d'en bas, et c'est assez rare. Ça peut paraître extraordinaire dans ce avec l'idée de démocratie qui vient tout de suite quand on dit le mot, quand on prononce l'expression États-Unis. Eh bien, c'est un autre regard et qui court tout au long de ce livre, mais à travers des histoires. Je vous en ai raconté, mais toutes les 15 lignes, 20 lignes, on trouve une histoire de l'histoire des États-Unis, et tout au long
du livre Les réflexions de cet auteur engagé qui est Howard Zinn.
Hello, this is Roberta Peter. If you want to hit a high note for safety, please buckle up your seatbelt.
Je voudrais qu'on parle maintenant plus étroitement de votre approche de l'histoire. Et vous racontez l'Amérique d'en bas. Vous racontez ce que l'histoire fait sur le peuple et ce que le peuple fait sur l'histoire.
Yeah.
C'est vrai que l'histoire est racontée par les vainqueurs. Mmh. Et les vainqueurs, ben, c'est le pouvoir, ce sont les dominants, mmh. ce sont les conquérants. Et notre histoire à nous nous est racontée de cette façon. Et l'histoire des États-Unis est racontée de cette façon. Et comme vous dominez le monde, eh bien l'histoire américaine vous est racontée de cette façon.
Exactly true.
Absolument.
Because I wanted to show the victims of the society.
Je voulais montrer les victimes de la société.
No, I wanted to show the Indians, the indigenous people who were annihilated.
Je voulais montrer les indigènes, les Indiens, et comme ils ont été annihilés.
As the Americans moved across the country.
Parce que les Américains sont entrés sur le territoire et ont évolué.
But I also wanted to show that these Indians resisted.
J'ai aussi voulu montrer comment ces Indiens ont résisté.
In the 1960s.
Dans les années 1960.
When it was considered that the Indians had disappeared.
Alors qu'on considérait que les Indiens avaient disparu.
That they had been annihilated.
Ils avaient été complètement annihilés.
Suddenly an Indian movement became evident.
Soudain, un mouvement des Indiens revint sur le devant de la scène.
And today, for instance, in the United States, we just celebrated Thanksgiving.
Oui, par exemple, aux États-Unis, on vient juste de célébrer Thanksgiving, la fête de...
You know, which is a traditional holiday and in which the myth is of how generous the European settlers were to the Indians.
C'est un jour férié. Le mythe qui court sur ce jour férié, c'est à propos de la générosité des premiers colons européens quand ils sont arrivés aux États-Unis. C'est pour leur générosité.
But today, all over the United States, when there is Thanksgiving Day, there are Indians who speak up and protest.
Lors des Thanksgiving Day, lors de ces jours fériés aux États-Unis, les Indiens prennent la parole.
And the same thing is true for other groups in the United States where I try to show, I show black people as victims of American society.
Et je tente de faire la même chose avec d'autres groupes de la société américaine, notamment les Noirs, que je montre comme des victimes de la société américaine.
But I also try to bring out the hidden stories of how they resisted slavery and then how they resisted segregation.
Et je cherche aussi à exhumer les épisodes cachés de la façon dont les Noirs ont résisté à l'esclavage et plus tard à la ségrégation.
For instance, the myth in the United States is that Abraham Lincoln freed the slaves.
Un grand mythe de l'histoire américaine concerne le fait qu'Abraham Lincoln aurait été le libérateur des esclaves noirs aux États-Unis.
And the reality is that Lincoln was very slow to act.
La réalité, en fait, c'est qu'Abraham Lincoln a vraiment été très, très, très long pour agir.
And what actually happened was that there was a great movement, anti-slavery movement, of black people and white people.
En fait, il y a eu un grand mouvement contre l'esclavagisme de la part des Noirs et des Blancs.
Which created a great pressure on Lincoln and on the Congress.
Et c'est ce qui a mis la pression, en fait, sur Lincoln et sur le Congrès américain.
And the result was the Emancipation Proclamation, and the result was the change in the United States Constitution.
C'est ce qui a amené à la proclamation d'indépendance et à la modification de la Constitution américaine.
I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road. A hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I was poor. My crops I laid into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. Now as I look around, it's mighty plain to see, this world is such a great and a funny place to be. Oh, the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore.
C'est-à-dire que tout au long de votre livre, vous racontez les résistances aussi, pas seulement des peuples éternellement victimes. Parlez-moi du parti pris de l'historien. L'historien choisit des faits. Il n'y a pas d'objectivité historique.
No, it's interesting that when you go to school in the United States, you are given a textbook of history.
Quand vous allez à l'école aux États-Unis, on vous donne un manuel d'histoire.
Which is very fat.
Qui est très épais.
And you then deceived into thinking that it is all there. The history, the entire history.
Tout est là dans ce livre. L'histoire entière des États-Unis tient dans ce livre.
And you are not told that so much has been omitted.
Et on ne vous dit pas que tel et tel aspect de l'histoire américaine a été omis.
No. But as soon as you begin to think about the process of writing history.
Et dès lors que vous commencez à réfléchir au processus qui amène à écrire l'histoire,
you realize that objectivity is impossible.
Vous vous rendez vite compte que l'objectivité est impossible.
Because the historian, like the journalist, has to select out of an enormous number of facts and decide what is important.
Car l'historien, comme le journaliste, doit sélectionner dans une masse énorme de faits ce qu'il va mettre en avant.
And so the history books have always reflected what the upper classes thought was important.
C'est pourquoi les livres scolaires ont toujours reflété ce que les classes dirigeantes ont considéré comme primordial.
On a l'impression que pour les puissants, l'instrumentalisation de l'histoire est indispensable pour accéder à la puissance, au pouvoir ou pour s'y maintenir.
Yeah, that's exactly true.
Exactement, c'est tout à fait ça.
And so, when they're telling the story of the economic history of the United States, they emphasize the work of Rockefeller, Carnegie, Morgan, the great entrepreneur.
C'est pourquoi dans l'histoire économique des États-Unis, ce qui est souligné, ce sont les faits d'armes des grands entrepreneurs.
Les barons voleurs.
The robber barons. Yes, exactly. But they don't call them robber barons. They call them captains of industry.
Mais on ne les appelle pas les barons voleurs, on les appelle les capitaines de l'industrie.
Vous avez tout un chapitre où vous racontez notamment l'histoire de Morgan.
But they leave out of the history books the fact that all of the great strikes that took place in the United States.
Mais ce qu'ils omettent, ce sont toutes les grandes grèves de l'histoire américaine.
Bloody, violent strikes.
Très sanglantes.
In which the working class faced the police, the army.
Et la classe ouvrière s'est confrontée à la police, s'est confrontée à l'armée.
And that's how the 8-hour day was won.
Et c'est exactement comme ça qu'on a gagné la journée de 8 heures.
Vous racontez l'histoire du 1er mai.
Yeah,
c'est une invention américaine, le 1er mai.
Exactly. The 1st of May came out of those struggles.
Exactement, le 1er mai a émergé de ces grandes luttes.
But if you don't know about those struggles, you think that the 8-hour day was a gift to the working class.
Mais si vous ignorez tout de ces grandes grèves, vous pensez simplement que la journée de 8 heures a été donnée généreusement par les dirigeants.
So when you omit these struggles, you create a population which is passive, which is waiting for gifts from the people who run the country.
C'est pourquoi en omettant ces grandes luttes, vous créez une population qui est passive et qui attend.
À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera, et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, ta punaise, est-ce que c'est bien clair?
Chef, oui, chef!
Mon cul, je n'entends rien, montrez-moi que vous en avez une paire.
Chef, oui, chef!
aujourd'hui, quel sens vous donnez à votre travail? Une éducation politique, une morale?
No, I see my work as a political act.
Je considère mon travail comme un acte politique.
I want my readers to become active participants in history.
Je veux que mes lecteurs deviennent des participants actifs.
I want them to be inspired by social movements.
Je veux qu'ils soient inspirés par les mouvements sociaux.
I want them to have different heroes than they have received in the textbooks.
Je veux qu'ils se choisissent d'autres héros que ceux qu'ils ont reçus par leurs livres scolaires.
Yeah. I want their heroes not to be generals and warriors. I want their heroes to be people who fought against war.
Je ne veux pas que leurs héros soient des guerriers, soient des militaires, mais je veux que leurs héros soient des gens qui se sont battus contre les guerres. Mm.
The pledge to resist. To resist. We believe that as a people, it is our responsibility to resist the injustices done by our government in our name. Not in our name. Not in our name. Not in our name. War. There can be no more deaths, no more transfusions of blood for oil. Not in our name. Not in our name.
Pas dans notre nom, not in our name. C'était vraiment trop court. Hein. On a encore beaucoup de choses à échanger et à écouter de Howard Zinn, cet historien américain, donc auteur de Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à aujourd'hui, qui est sorti il y a quelque temps chez Agone et qui a reçu le 1er décembre à l'Assemblée nationale le prix des amis du monde diplomatique. On le retrouvera dans une prochaine édition de Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, Christophe Imbert, Colien Guyenne et Antoine Chao sont fautifs de cette émission d'aujourd'hui. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est l'instant tant attendu de la réclame.